Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast de la rédaction de Game Info. Aujourd'hui c'est notre épisode numéro 380. Ici Mordren et je suis en compagnie du tyran, c'est le tyran.
Salut!
Toujours sans ATH cette semaine, le petit ATH est perdu, merci de le ramener à l'accueil.
Merci.
Au menu du podcast cette semaine, on va parler de plein de choses. Vous savez que c'est un petit peu l'émulation autour de l'E3, du Summer Game Fest, tout ça. Donc on va en parler, pas spécifiquement conférence par conférence, mais on a retenu quelques petites choses dont on va vous parler. Aujourd'hui, notamment des dates de sortie en Early Access ou en V1, de l'annonce de Metal Slug Tactics, de la date de Sable, de Trek to Tommy, de Yomi. Trek to Yomi,
Trek
pardon.
Trek to
de...
Yomi, tu vas y arriver.
Ouais, c'est un peu compliqué. Withered with a Gun, de Micromania, qui se lance dans un truc un peu louche, dont on vous parlera juste après. Puis enfin, de Ubisoft, qui a annoncé un nouveau jeu vidéo Avatar, puisque le précédent flop n'avait pas suffi, visiblement. Ainsi qu'une suite pour Mario et les Lapins Crétins. Enfin, on vous parlera bien sûr d'Elden Ring. Et d'une petite fuite, une grosse fuite même, chez Electronic Arts. Mais commençons tout de suite par une date de sortie sur Death Door, dont on vous a parlé il y a 2-3 semaines, un truc comme ça. C'est un jeu d'aventure vu de dessus où on joue un corbeau.
En isométrique, on va jouer un Lamor, en fait, tout simplement. Enfin, un employé de Lamor, c'est un corbeau. La principale qualité du jeu, on va dire, c'est sa direction artistique absolument magnifique.
Ouais, les musiques sont très très bien aussi.
Ouais, le jeu a l'air très classique, hein, dans le fond. C'est-à-dire que ça a l'air d'être un jeu d'action en vue isométrique. Bon, il a pas l'air de réinventer l'eau chaude, quoi. Mais, en tout cas, l'univers a l'air très séduisant, donc, curieux de voir ça. Donc, le 20 juillet.
Donc, à surveiller.
On aura de quoi s'occuper cet été.
Ouais, un petit jeu sympathique qui s'appelle donc Death Door le 20 juillet. Et ça, je crois qu'on nous l'a présenté, c'était pendant le Devolver Digital truc
oui,
machin.
Oui, c'est tout à fait possible.
Ok, toujours chez Devolver, c'est Phantom Abyss dont on vous a parlé encore une fois il y a pas très très longtemps. C'est un jeu de plateforme. Action plateforme où vous allez en fait jouer un pilleur de tombes et l'idée c'est que le trailer ne charge pas. Bon, tant pis.
c'est dommage.
Tant pis. Ouais, c'est un jeu de plateforme. Vous êtes, c'est un peu à la frontière entre Fall Guys et Indiana Jones. J'ai envie de résumer ça comme ça finalement. Où en fait c'est un jeu multijoueur asynchrone où vous allez voir les fantômes de vos compères d'aventure, pas en même, qui jouent pas en même temps que vous, hein. Mais et du coup l'idée c'est d'aller le plus loin possible et de choper la relique au bout du tunnel. Et bah ça a l'air super sympa.
Que vous ne pouvez faire qu'une seule tentative.
C'est ça.
C'est très important, on ne l'avait pas dit la dernière fois, ça. Tu peux essayer qu'une seule fois. Hein. Ouais. Mais par contre, l'idée, c'est que tu te sers des erreurs des précédents joueurs pour essayer d'être celui qui arrivera à fermer ce donjon-là. Parce qu'une fois qu'un donjon a été conquis, personne ne peut plus essayer de le terminer. Voilà.
C'est ça. Donc c'est un jeu qui a l'air hyper cool. On vous avait dit, quand on vous l'avait présenté, que ça sortait en Early Access en juin. On a désormais la date ferme de sortie sur Early Access. Ça sera le 22 juin. Et moi, je suis très très curieux de voir ce que ça peut donner. Le jeu s'appelle Phantom Abyss. Il y a un autre jeu que tu nous as sélectionné, Tyran, cette semaine. C'est un jeu qui s'appelle Book of Travels. Et j'ai pas trop compris le principe du jeu, pour être tout à fait honnête avec toi, en regardant simplement le trailer. Est-ce que tu peux faire le point là-dessus?
Bah c'est bien, moi non plus en fait.
Ah d'accord, bon bah parfait.
Alors j'explique juste dans les grandes lignes, c'est un jeu multijoueur axé sur l'exploration, visiblement. C'est un peu un univers contes et légendes, etc., où tu vas découvrir des merveilles cachées un peu partout. T'as aussi un système de combat qui a l'air assez punitif, mine de rien, pour un jeu qui est l'art zen, c'est-à-dire que la séquence de combat que tu vois en deux coups de sabre, c'est terminé, quoi. Ouais. Donc visiblement, ça a l'air assez violent. Et surtout, c'est un jeu qui se jouera en petit comité, c'est-à-dire que c'est pas un MMO. Hein. Visiblement, ce sera des instances avec quelques joueurs, et tu pourras croiser d'autres joueurs, etc., dans le monde. Alors, j'attends de voir, hein, parce que je précise que c'est le studio qui est derrière Shelter et ou encore PID.
Ah oui, j'aime bien Shelter.
Ouais, Shelter, c'est, le, vous savez, le jeu là où jouer des animaux. une famille d'animaux et où vous devez préserver vos petits, etc. Ouais. Bah, d'ailleurs, je trouve qu'on retrouve un peu de leur patte artistique.
Tout à fait, ouais.
Et bon, ils ont tendance à tester des concepts un peu originaux, donc on verra ce que ça donne là. Alors j'ai bien conscience que sur le papier, ça donne pas forcément envie, mais le truc c'est que j'ai l'impression que eux aussi ils ont un peu de mal à communiquer ce qu'on va faire dans le jeu, quoi, en fait. Hein. À part se balader, voilà, et combattre de temps en temps, qu'est-ce qu'on fait, quoi. Moi, ce qui m'attire dans ce jeu surtout, c'est le rendu, en fait, ouais. Parce que t'as vraiment l'impression de te balader dans des peintures, quoi. Et enfin, je trouve le jeu absolument magnifique. Donc, curieux de voir ça, je vais surveiller ça.
Ok.
On verra bien.
Et donc, pour information, le jeu sort en accès anticipé le 9 août prochain. Donc, ça s'appelle Book of Travels, le livre des voyages. Alors, vous allez retomber sur vos pattes très rapidement hein, avec cette licence, puisque vous la connaissez bien, c'est Metal Slug. Mais Metal Slug qui nous avait habitués, bien évidemment, à des jeux d'action side-scroller vus de côté. Là, on passe sur un genre tout autre, puisque il s'agit de Metal Slug Tactics, et qui est, me semble-t-il, édité, développé par Dotemu. Et donc bon, alors qu'est-ce que tu penses de ce crossover entre Metal Slug et le genre tactique ?
Bah déjà que c'est magnifique. Enfin, tu vois les sprites du jeu, ils sont absolument énormes. Les animations sont fluides. Enfin, ça fait plaisir. Après, il y a l'air de l'avoir de la destruction de décors, notamment dans une séquence. À un moment donné, on voit qu'ils détruisent un pont.
Ouais.
Donc, curieux de voir comment exploiter ça. Mais moi, ce qui m'intéresse surtout dans cette news, c'est pas tellement le genre en lui-même, même s'il est bien sympathique. C'est surtout que je remarque que Dotemu, de plus en plus, devient un peu, j'ai l'impression, un intermédiaire pour les boîtes qui cherchent à faire revivre leur vieille licence. On l'a vu avec Street of Rage, on l'a vu là avec récemment, comment il s'appelle ce jeu, les Tortues Ninja. Voilà.
Ouais.
Donc j'ai l'impression que de plus en plus de Temu se place un peu comme un... Ils ont trouvé leur créneau, quoi. C'est-à-dire l'éditeur qui fait revivre des vieux trucs qui étaient enfermés dans un coin et on essaye de faire autre chose avec, quoi. Tout simplement.
Ouais. Et souvent, d'ailleurs, le développeur-éditeur fait le pont souvent avec des éditeurs japonais. Ce qui est intéressant aussi à noter. On l'a vu, alors c'est pour le coup, c'est pas Dotemu, mais on l'a vu avec Konami qui a relancé un de ses jeux de fond de tiroir, de fond de catalogue avec un développeur tout autre en externe. J'ai l'impression que ça, c'est un truc qui va se faire de plus en plus. Le fait que, du coup, t'es des éditeurs qui de fait, ont une malle de licences impressionnante, mais n'ont pas forcément la volonté de développer des choses en interne par leur propre force salariale, d'aller voir, du coup, ou plutôt de laisser d'autres développeurs leur proposer des choses. Et ça, pour le coup, c'est intéressant. À noter.
Tout à fait.
Est-ce que tu entends quelque chose, là, dans mon micro ? Non.
Non.
Il faut peut-être que je ferme mon Velux parce que j'entends du bruit. Donc je vais te laisser enchaîner tout de suite, peut-être avec Sable, oui. si ça te va.
Bon, alors ça y est, on a eu des news de Sable. Sable, je rappelle, c'est ce jeu visiblement orienté exploration où on se retrouve dans un univers. Avec une direction artistique qui fait très fortement penser à Moebius, non ?
Ouais, carrément.
Tout à fait. Et ils ont annoncé une date de sortie, donc récemment, déjà. Donc c'est prévu pour le 23 septembre prochain, donc c'est donc pas longtemps. Et surtout, ils ont montré un peu plus de gameplay. Alors, moi, je voulais te demander ce que tu en as pensé, Marron, parce que je pense qu'on a peut-être pas tout à fait le même avis sur le jeu.
Ouais. Alors, je t'avoue que moi, c'est un jeu que j'attends beaucoup. Que j'attendais beaucoup, que j'ai souvent placé parmi mes grosses attentes pour les mois et les années à venir, simplement parce que pour moi la direction artistique était hyper attachante et hyper attirante, mais à chaque fois j'avais ce bémol de ok, mais qu'est-ce qu'on fait dans le jeu, et je t'avoue que ces 13 minutes de gameplay m'ont pas spécialement rassuré sur le contenu du jeu.
Donc en fait, on est d'accord.
Ouais. Et en fait, pour avoir revu du coup ces 13 minutes, et effectivement, comme le dit Hicham, la démo soit est disponible, soit va l'être très prochainement. Donc je pense que je vais tester la démo pour essayer peut-être de me rassurer. Mais en tout cas, de ce que j'ai vu, Déjà, il y a très très peu d'interactions. J'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose à faire en dehors de parler à des gens. Et en termes de gameplay pur, bah tu ne fais que explorer. Alors, certes, ça peut être très bien, mais je sais pas, il y a pas mal de petits trucs qui m'ont gêné. Alors, certes, c'est du gameplay alpha pour le coup, mais je note du clipping, des trucs qui pop un petit peu partout, des textures qui changent quand tu t'approches d'elle. Des animations aussi, l'animation du personnage principal quand elle court, c'est hyper chelou. Alors c'est certainement un parti pris, mais ça fait bizarre. Je t'avoue que je m'attendais pas à faire ce genre d'impression quand je vous ai dit le gameplay de Sable est d'ores et déjà disponible parce que je vous l'avais envoyé avant même de le regarder. Et pour le coup, un peu surpris, et malheureusement, bah il va falloir se rassurer, je pense, avec le gameplay de la démo. Donc on s'en reparlera peut-être quand je l'aurai testé. Tyran, toi, t'en penses quoi ?
Moi, en fait, je vais être moins diplomate que toi, hein, mais quand j'ai vu la vidéo, je me disais, mais putain, qu'est-ce qu'on se fait chier, quoi, sérieux. Au secours, quoi. C'est très beau, hein. C'est magnifique. Enfin, après, oui, effectivement, oui, il y a des problèmes de clipping, etc. Mais ça, je pense que s'ils ont indiqué que c'était une alpha, c'est qu'ils savaient très bien qu'il y avait ces problèmes-là. Et du coup, ouais. Bon, je ne doute pas que ce sera corrigé. Enfin, j'espère pour eux, en tout cas. Pour moi, ça, à la limite, c'est pas très important, surtout que c'est pas des problèmes qui sont insurmontables. Mais oui, par contre, ce que l'on voit là, alors, je me doute que c'est la séquence d'intro, hein, du jeu. Et que du coup, c'est pas forcément la partie la plus intéressante, et que peut-être que le gameplay va évoluer par la suite, d'autant plus qu'on voit à la toute fin de la démo que la gamine débloque un pouvoir pour pouvoir flotter dans les airs, visiblement, donc ça va débloquer de nouvelles options pour se déplacer, etc. Mais j'ai quand même un peu peur qu'on soit dans un walking simulator, quoi, si tu veux. Et bon, alors,
exactement.
Pourquoi pas, hein, si vous voulez, mais moi, c'est pas ma cape. Voilà, tout simplement. Ouais.
Voilà, donc
j'espère
qu'il faudra
parce que
voir.
L'exploration c'est bien si tu veux, mais il faut qu'il y ait un motif à l'exploration,
c'est
en
ça.
Fait. Est-ce que l'univers du jeu justifie le fait que tu te déplaces à Perpoète pour aller voir une ruine, machin,
c'est ça.
Enfin, il faut qu'il y ait une certaine curiosité, tu vois, que tu aies une envie, et moi ce que j'ai vu, ça me donnait pas envie pour le moment.
Ouais. Donc, évidemment, ce sont des impressions qui sont faites à partir d'une vidéo, mais bon, on va le dire que c'est la première fois qu'on voit Sable en vérité. Hein. Donc,
oui, d'ailleurs,
Hicham
dans le chat a l'air d'avoir apprécié la démo qu'il a faite, visiblement. Donc,
ouais.
On verra, on fera tester.
Ouais. Donc, on vous fera un retour là-dessus quand on aura pu mettre les mains dessus, tout simplement. Donc, le jeu s'appelle Sable, donc ça s'écrit Sable, et ça sort le 23 septembre. Donc très prochainement, mais ça c'est quand même une bonne nouvelle. Passons à la suite, si tu le veux bien, avec un jeu qui a été présenté la première fois par Devolver dans sa conférence de l'E3. C'est un jeu qui s'appelle Trek to Yomi, j'ai réussi à le dire bien du premier coup cette fois. Trek to Yomi, c'est un jeu en 3D, mais side-scroller vu de côté. Où vous incarnez visiblement un samouraï dans un univers très très Ghost of Tsushima, hein, bien sûr. Maintenant qu'on a vu ça sur PS4 à l'époque, ça fait forcément penser à ça. Mais donc un jeu de combat visiblement vu de côté. Je suis très curieux de voir ce que ça va donner. On en a vu qu'une minute, hein, mais moi je forcément tu me mets du samouraï, tu me mets du combat de katana, tu me mets une ambiance en noir et blanc à la Akira Kurosawa, et tout de suite j'ai envie d'en voir plus. Donc voilà, pour l'instant on n'en sait pas beaucoup plus, on sait juste que le jeu sortira en 2022, et c'est déjà suffisant.
Alors je te cache pas que je suis curieux de voir comment ça va rendre tout ça, parce que on parle quand même du studio qui a fait Shadow Warrior.
Oui.
Et on va dire qu'ils sont pas spécialement connus pour faire des jeux subtils, si tu vois ce que je veux dire.
Bien sûr. Ouais,
que
ouais,
ce
c'est
soit
clair.
Du point de vue du gameplay, que du point de vue de l'écriture. Parce que l'humour dans Shadow Warrior, c'est du lourd, hein. Voilà. Donc, je suis curieux de voir comment ils vont s'en sortir dans un jeu qui sort complètement de leur zone de confort, en fait, hein, tout simplement.
Ouais, c'est clair.
Alors après, le jeu a pas l'air original pour un sou. Hein,
non.
Mis à part le rendu graphique, Mais déjà, ça, pour ce tuyau-là, c'est une belle aventure, j'ai envie de dire, hein, parce que c'est pas du tout leur domaine, quoi. Donc très curieux de voir ça.
Et on va préciser aussi que le trailer bénéficie de voix en japonais, ce qui pour un éditeur indépendant de ce genre de la taille de Devolver est quand même un choix intéressant. De le choix, on va dire, de l'authenticité. Donc ça, c'est quand même plutôt cool à noter de ce point de vue-là. Donc le jeu s'appelle Trek to Yomi.
Hicham qui dit dans le chat que c'est un studio qui maîtrise son gameplay, tout à fait. Mais justement, ce jeu-là, moi, j'ai pas vraiment l'impression que ce soit un jeu où il va falloir s'attendre à un gameplay absolument fantastique, quoi. Bon, parce que forcément, tout de suite, quand tu fais un side-scroller en 2D comme ça, bon... certes, tu peux faire très bon jeu avec ça, mais si tu veux, c'est pas le même niveau de complexité qu'un FPS en 3D. Et je pense que du coup, ils vont devoir jouer sur d'autres choses pour faire envie aux gens. Pour le moment, ils ont plutôt réussi sur la partie, on va dire, graphique. Maintenant, il faut voir comment ils s'en sortent sur la narration et tout ça, quoi. Voilà.
Exactement. On continue du coup. Donc le jeu est censé sortir en 2022 sur console next-gen et sur PC. Autre jeu présenté par Devolver cette semaine, c'est Withered with a Gun, donc le sorcier avec un pistolet. Tout un programme résumé en un seul titre, j'ai envie de vous dire. Alors le jeu s'est présenté avec une cinématique en 2D animée superbe, et ensuite on a pu voir à quoi ressemble le jeu. Et en fait, c'est assez simple. Imaginez un mix entre Don't Starve et Enter the Gungeon. C'est un jeu de survie qui vous propose de jouer en fait de la survie en coopération, donc à plusieurs. Et l'idée, c'est que votre personnage, un peu à la manière du twin stick shooter Enter the Gungeon, va pouvoir du coup utiliser des armes à distance. Et vu que c'est un sorcier, il va pouvoir aussi les améliorer avec des choses de l'ordre de l'alchimie, des sorts, etc. Donc c'est franchement un truc qui fait super envie. Alors déjà, la cinématique est super réussie, mais je trouve que la patte graphique très Don't Starve pour le coup fonctionne très très bien et va donner probablement un mix de gameplay beaucoup plus nerveux aussi que ce qu'on avait pu voir dans Don't Starve, parce que Don't Starve c'était super sympa, c'était un peu pato quand même. Donc là, pour le coup, on est plus dynamique, j'ai l'impression.
Ouais. Moi, c'est vraiment ce style de jeu-là qui pourrait éventuellement me faire jouer un jeu de survie. Vous le savez, moi, les jeux de survie, c'est pas ma came, mais là, quand t'as un système de combat un peu sérieux, tu peux dire, bon, à la limite, je laisse la partie survie à mes collègues et, on va s'amuser à tuer des trucs, quoi. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas, mais alors, dans tous les cas, je trouve intéressant qu'ils rajoutent quelque chose de la formule, quoi, parce que clairement, le combat, c'était pas le point fort de Don't Starve, quoi, donc voilà.
Ouais, c'est clair. Donc, pour le coup, moi, je sais que Don't Starve, j'avais apprécié de façon assez mesurée mes parties en solo. Par contre, dès que j'y avais joué avec Ben, tout de suite, j'avais pris un petit peu plus de plaisir à découvrir ce jeu, et je pense que le simple fait que le jeu soit fait pour être joué en coopération, déjà ça va lui être donné un attrait particulier. Et maintenant faudra voir à combien on y joue, si c'est juste deux ou si c'est plus. Pour information, le jeu est prévu pour 2022 sur PC et sur Nintendo Switch. Voilà, il faudra. Moi, en tout cas, ça fait partie des jeux que j'attends qui nous ont été présentés cette semaine. J'ai très hâte de voir. Donc le jeu s'appelle Withered with a Gun. On va faire un petit interlude avec tous ces jeux présentés. On va revenir un petit peu à l'industrie, j'ai envie de vous dire. On va vous parler un petit peu de Micromania. Micromania / Zing, qui a lancé cette semaine une nouvelle offre. Une nouvelle offre qui est à destination de... on sait pas qui, visiblement, des gens un petit peu trop crédules peut-être, puisque l'idée c'est de vous permettre d'accéder à une console de nouvelle génération, donc soit une PS5, une Xbox Series plus tard parce que c'est pas encore disponible, et une Nintendo Switch via un forfait de location. Et on va en parler tout de suite. Ces forfaits vont de 17,49€ par mois à 24,99€ par mois avec des trucs qui se rajoutent dans les offres. Et le tout, c'est que vous vous engagez sur 24 mois minimum. Donc c'est 24 mois ferme. Et
oui, parce qu'il y a des offres aussi à 36 mois d'engagement, hein. Donc
c'est vrai. C'est vrai qu'il y a des offres à 36 mois, donc sympathique. Et alors, du coup, tu te dis bon, alors je connais ce genre d'offres puisque je les ai pratiquées avec les smartphones. Et au bout d'un moment, en fait, le smartphone il t'appartient. Donc c'est un peu du leasing si tu veux, comme les.
Oui, c'est ça. Moi au départ, quand j'ai vu ça, j'ai dit bon, ça fait quand même un peu cher le leasing si tu veux, parce que par exemple, je prends l'offre à 20€ par mois pendant 36 mois. Ça revient cher, je crois que ça fait plus de 700 balles à la fin, quoi. Donc, enfin, c'est quand même assez conséquent. Mais tu te dis, bon, c'est cher, mais s'il y a des gens qui sont intéressés, bon, admettons, hein, pourquoi pas. Sauf que, mon cher Modren, il y a un petit souci, en fait.
Ben ouais, le petit souci, en fait, c'est que une fois ces 36 mois révolus, la console ne t'appartient pas, en fait. Et c'est là où le bât blesse. C'est là que le bât blesse, pour le coup, c'est que t'as tous les inconvénients de la location, c'est-à-dire que le truc ne t'appartient pas, mais tu payes quand même.
En plus, c'est une location bien chère, quand même. Hein.
Donc, ouais, et t'as tous les inconvénients du leasing, c'est-à-dire que c'est une période qui est très longue, et souvent, c'est des tarifs qui sont assez élevés, la preuve, puisque le 20€ x 36, ça fait 720€ sur 3 ans, quand même, donc tu payes plus cher. Donc, il est où, en fait, l'intérêt? Alors, je comprends bien que pour certaines bourses, c'est compliqué de balancer tout de suite ces 500 balles, voire plus, hein, parce que du coup, tu payes aussi le jeu, éventuellement la deuxième manette, etc. Il n'y a pas de jugement de valeur là-dedans. Mais quand tu vois que au final, une offre qui est censée, entre guillemets, être pour les pauvres, et qu'en réalité, on se fait du blé là-dessus parce que on les fait payer plus cher au final, voilà, je pense qu'il faut le constat, il est simple. Si tu peux pas te la payer tout de suite, surtout ne va pas sur cette offre là mais tu t'économises en fait de ton côté, et puis derrière tu te la payes rubis sur l'ongle, j'ai envie de te dire. C'est à quel moment tu te dis que c'est une bonne idée de participer à ce genre d'offre?
Voilà, déjà, je pense que Micromania, ils ont flairé le bon plan en se disant, bon, il y a des gens qui ont du mal à se procurer des PS5 en ce moment, on va essayer de voir si ça passe, tu vois, sur un malentendu peut-être que, voilà. Mais bon, déjà, de ce que j'ai compris, c'est pas si difficile que ça de se procurer une PS5, et puis surtout, bon, à un bout d'un moment, faut arrêter de prendre les gens pour des pigeons, quoi. Ou alors peut-être, moi, je me demande si je joue pas sur l'ambiguïté, là, en fait, parce que, vraiment, moi, la première fois que j'ai vu cette offre, je me suis dit, mais en fait, on a la console à la fin, tu vois. Et c'est en relisant, je me suis dit, mais non, en fait, c'est marqué nulle part, quoi. Ça a la gueule d'un leasing, ça sent le leasing, mais ce n'est pas du leasing, quoi.
C'est fort.
C'est fabuleux.
Et alors, là où, et ça, je pense que c'est une information que t'as pas, tiens, j'en ai parlé un peu au boulot avec un mec qui fait pas mal de choses conso, et du coup, qui a été amené à parler à Micromania de cette offre-là. Et il a posé la question de comment ça se passait pour les futurs stocks de PS5, et notamment sur les stocks de PS5 plus en bundle avec Ratchet & Clank, qui sont sortis du coup vendredi, et on lui a dit textuellement, ces consoles-là, ces nouveaux stocks-là, ils iront en priorité sur les forfaits de location Micromania. Donc
Micromania crée artificiellement la pénurie, quoi.
Donc là pour le coup, si tu te dis, c'est non seulement c'est scandaleux de base, mais en plus parfois t'as des gens qui vont voir en magasin la console disponible et les mecs leur diront, désolé, c'est des consoles pour la location Micromania.
Voilà. Bon, j'ai rien à rajouter.
Achetez ailleurs vos consoles, s'il vous plaît. Voilà. Bon, et passons à la suite. On revient au segment de présentation de jeux vidéo de cette semaine. On va faire un tout petit segment sur Ubisoft, puisque l'Ubisoft Forward cette année, c'était pas une grande année. Mais on va revenir sur le One More Thing. C'est Avatar, c'est quoi? Frontiers of Pandora. Donc un nouveau jeu dans l'univers d'Avatar. Alors pas Avatar le dernier maître de l'air. Hein. On m'a déjà posé la question hier. Avatar, le film de James Cameron, dont tout le monde se fout maintenant, 12 ans après sa sortie, puisque les suites se font toujours attendre. Hein. C'est une espèce d'arlésienne du cinéma finalement, où les suites sont en tournage certes, mais on ne sait toujours pas si elles vont cartonner, parce que en fait il s'est passé un temps tellement monstrueux entre la sortie du premier. En 2009, hein, de mémoire, et ces suites qui sont en tournage, mais on ne sait pas si elles vont cartonner. Enfin bref, Ubisoft fait le pari de développer un nouveau jeu via Massive. On ne sait pas de quoi il s'agit. Ça sera probablement un jeu en monde ouvert. Hein. C'est un jeu Ubisoft. On va pas se leurrer.
Attends, déjà qu'ils vont devoir se faire chier à produire des modèles originaux de bestioles, etc. Alors si en plus ils peuvent pas réutiliser toute leur mécanique et leur moteur, faut pas déconner, quoi. C'est...
Donc du coup, voilà. Pour l'instant, tout ce qu'on sait, c'est que c'est censé sortir en 2022. Que c'est censé sortir sur console de nouvelle génération, donc sur PS5, Xbox Series X et Xbox Series S, plus tout ce qui est Luna, Stadia, etc. Par contre, les sorties old-gen n'ont pas été annoncées pour le moment. Ce qui m'inquiète, c'est la date de 2022. Très honnêtement, j'y crois pas du tout. Je pense que c'est pour coïncider avec la date de sortie prospective d'Avatar 2. Mais
on est d'accord qu'il n'y a pas de date officielle hein, pour Avatar 2 encore. Hein.
Si, ils ont tous été datés pour le mois de décembre. Alors Avatar 2, c'est 14 décembre 2022. Le 3, je crois que c'est décembre 2024, un truc comme ça. Enfin bref. À savoir qu'ils sont déjà en boîte, hein, mais le 2 et le 3 en tout cas, nous dit qu'il tient. Mais vu qu'ils les tournent tous en même temps en Nouvelle-Zélande, en fait, c'est ça qui prend un temps fou. Mais bref, du coup, je sais pas du tout à quoi m'attendre, puisque alors la cinématique, bon bah, elle est plutôt jolie, hein, y a pas de problème, mais ça ne nous dit absolument rien de ce qu'est le jeu. Voilà, c'était juste pour le noter parce que honnêtement, j'ai trouvé ça un peu rigolo. Ouais.
Disons que finir ta conf avec ça, voilà quoi. Bon, en même temps, tu me diras, c'est à l'image de la conférence. Hein. Je veux dire, à part le jeu dont on va parler après, c'était un peu au safe-tier, quoi. On va pas se le cacher.
Oui, c'est un peu ça. En fait, ce que j'ai trouvé un peu étonnant, finalement, c'est que, rappelez-vous que Avatar, c'est le dernier jeu à licence d'Ubisoft après qu'ils aient arrêté. Parce que ça avait fait un four monumental, ce jeu Avatar, qui avait été très 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 mal reçu, faut dire, par la critique. Et ils s'étaient dit, mais en fait, ça vaut pas le coup pour nous, d'un point de vue pécunier, de faire des adaptations de films. Et donc, c'est pour ça qu'ils avaient arrêté. Et c'est précisément Avatar qu'ils choisissent pour refaire du jeu à licence. C'est étonnant. Sachant que ils ont aussi un jeu Star Wars hein, qui est prévu pour plus tard. Donc, visiblement, Ubisoft est de nouveau dans dans la course à la licence, visiblement. Voilà, alors passons à la suite, bah parce que pour le coup, là on est sur un autre jeu à licence, licence jeu vidéo, hein, pour le coup, c'est Mario et les lapins crétins, alors qui a fuité, un peu comme son prédécesseur à l'époque, Mario et les lapins crétins, Sparks of Hope s'appelle-t-il, donc c'est un jeu évidemment... C'est la suite de Mario et le lapin crétin Kingdom Battle ou un truc comme ça, qui était un jeu excellent. Moi, j'ai testé dans le podcast il y a quelques temps. J'ai beaucoup aimé. C'est un jeu tactique, en fait. Imaginez un peu genre mon premier XCOM, mais avec un skin de Mario et des lapins crétins. C'est à la fois plutôt rigolo et plutôt bien fait. Assez répétitif vers la fin, on va pas se mentir, mais là pour le coup ils ont l'air d'avoir envie d'ajouter des nouvelles choses alors qu'ils ont assez peu présenté hein, dans cette présentation, mais voilà, donc des nouveaux personnages bien évidemment, notamment Harmony, le fait de pouvoir choper des espèces de petites bobombes aussi qu'on va pouvoir prendre à la volée et les jeter du coup sur les personnages ennemis, des choses comme ça. Donc
le truc le plus original que j'ai vu là-dedans, alors c'est pas le premier jeu à le faire hein, mais c'est qu'ils ont complètement supprimé le quadrillage. Il y a un petit côté Valkyria Chronicle un peu je trouve dans le alors avec des mouvements beaucoup plus fluides hein, mais je trouve que c'est une bonne idée en tout cas.
Ouais, c'est une bonne idée. Je suis curieux de voir ce que ça va donner parce qu'ils ont aussi visiblement l'envie de proposer quelque chose d'un petit peu plus rythmé en termes d'action. Donc on va voir comment ils vont s'y prendre. Mais moi en tout cas, c'est très clairement la meilleure nouvelle que je retiens en fait de cette conférence Ubisoft Forward, qui était effectivement plutôt plan-plan cette année. Mm. On va pas se le cacher. Mais bon, écoutez, voilà. On va voir. En tout cas, le partenariat entre Nintendo et Ubisoft se passe visiblement très bien. Nintendo a l'air d'être très content de ce qu'a fait Ubisoft avec Mario et les Lapins Crétins, à tel point du coup qu'ils mettent en chantier une nouvelle suite. Donc c'est évidemment une très bonne nouvelle à la fois pour Ubisoft, mais aussi pour Nintendo, qui va pouvoir avoir de nouvelles exclusivités développées en externe sur sa console. Donc c'est évidemment très bien. Bon, on passe à ton grand moment, Tyran, ou pas?
Ouais, alors, mon grand moment, mais vous allez voir avec quelques petites nuances quand même.
Alors, Elden Ring qui nous a été présenté par surprise, hein, puisque à la base, il devait pas être à l'E3. Et effectivement, il a pas été présenté pendant l'E3, mais pendant le Summer Game Fest, donc en amont de l'E3. Et donc c'est une présentation d'Elden Ring par From Software évidemment, édité par Namco Bandai et on le rappelle évidemment en lien avec l'auteur des romans Le Trône de Fer, George R.R. Martin, qui a contribué à la création du monde avec évidemment Hidetaka Miyazaki. Vas-y, Kieran.
Bon, alors je suis un peu embêté avec Elden Ring parce que... en fait, on n'a pas vu ce qui, moi, m'intéresse dans le jeu.
Ok.
Rappelez-vous, la première fois que From Software nous a vendu le jeu, de quoi ils ont parlé? Ils ont parlé d'un jeu en monde ouvert. Du coup, là, qu'est-ce qu'on a? On a un trailer de 3 minutes où il y a énormément de combats et où finalement, bah, le monde ouvert, on n'en voit pas grand-chose, quoi. Ce qui est un peu con parce que du coup, qu'est-ce que disent tous les gens sur Internet maintenant? Ouais, bah voilà, c'est encore un copier-coller de Dark Souls, hein. Voilà, un copier-coller de Dark Souls. Bon, ce à quoi je réponds, ben, d'un autre côté, sur le système de combat, vous vous attendiez à quoi exactement? Parce que, alors, je pense quand même que les gens sous-estiment un peu le studio dans le sens que, oui, Sekiro aussi, ça ressemblait à Dark Souls, et pourtant, une fois le jeu en main, c'était pas du tout pareil. D'ailleurs, le jeu te punissait quand tu jouais comme dans Dark Souls. Donc, voilà. Donc, à votre place, j'attendrai de voir avant de dire que ça va être encore un copier-coller de Dark Souls. Et ce, d'autant plus que parmi les features qu'ils ont annoncées, ils ont dit qu'il y aurait de l'infiltration et on voit de façon clairement dans certaines séquences que les personnages peuvent être vachement plus souples que dans Dark Souls. Donc déjà de ce point de vue-là, j'aimerais un peu tempérer les choses, même si il faut reconnaître que From Software a pas renversé la table, mais ils ont jamais dit qu'ils allaient le faire, ils ne l'ont jamais fait de toute façon.
Ouais.
Donc moi je sais pas trop ce que les gens attendaient de ce point de vue-là. Par contre, moi ce sur quoi je les attendais, c'est le monde ouvert et on n'a rien vu. Donc je suis un peu emmerdé. Voilà, parce que c'est la chose la plus intéressante en fait. Moi, pourquoi j'attends ce jeu? Parce que je me dis, vous le savez, moi j'aime pas les jeux avec les GPS, etc., etc. Je vais pas vous faire l'aïus habituel, n'est-ce pas? Et je me dis, ah, un studio comme ça qui aime bien, tu sais, larguer les joueurs sur une carte et leur dire démerde-toi, et puis basta. Moi, je suis curieux de voir comment ils vont designer un genre monde ouvert, quoi. Et ça, on le voit pas dans le trailer. Bon, voilà. Une fois que ça s'est dit.
C'est un peu la déception. Ouais.
Alors, c'est pas forcément une déception parce que je m'en doutais. Parce que, franchement, comment tu veux présenter un monde ouvert dans un trailer de 3 minutes?
Oui. Mais il y a aussi le fait que, on est d'accord que c'est la toute première fois qu'on voit le jeu, hein.
Oui, c'est ça. Enfin, on avait vu un teaser à la con, en image de synthèse, quoi. On n'avait pas vraiment vu le jeu, en vrai. Après, il y avait eu des leaks, sur le jeu, avec des vidéos dégueulasses. On savait déjà qu'il y avait un canasson, par exemple. Voilà.
Ouais.
Donc, allez, on va parler quand même un peu de ce qu'on sait. Parce qu'il y a quand même deux, trois petites choses intéressantes.
Oui,
alors déjà, on sait qu'il y aura un système de météo dynamique, avec un cycle jour-nuit. Donc curieux de voir ce qu'ils vont faire avec ça, parce que connaissant From Software, ça m'étonnerait qu'ils aient mis ça juste pour le plaisir de faire un jeu un peu plus immersif, quoi, on va dire.
Ouais, je suis d'accord, parce que, tu sais, à l'époque, c'était un peu une case à cocher, en mode, oui, on a un cycle jour-nuit, une météo dynamique, machin, mais au final, ça n'apportait rien en termes de gameplay. Là, on peut peut-être éventuellement imaginer que dans Elden Ring, si From Software adopte évidemment sa philosophie habituelle, il y ait des choses différentes qui se passent suivant l'heure de la journée, quoi. Suivant le qu'on soit le jour ou la nuit, et ça peut être effectivement très intéressant.
D'une manière générale, donc il y aura des marécages. Voilà, pour ceux qui espéraient qu'il n'y en aurait pas, ben, Morgan, tu peux témoigner, les marécages dans les jeux From Software, tu as vécu ça récemment avec Demon's Souls, bon.
Ouais. Hein,
c'est...
Moi, j'ai découvert effectivement les marécages avec Demon's Souls, et ensuite on m'a dit c'est pire dans un des Dark Souls, et j'ai fait d'accord. Sachant que c'était déjà l'enfer dans Demon's Souls. Bon, bah, écoute, il faudra bien composer avec ça, hein, dans Elden Ring.
Ensuite, on aura le retour de l'éditeur de personnages. Donc, ceux qui avaient peur qu'on se trouve comme dans Sekiro avec un personnage fixe, non. Même si j'ai envie de dire, franchement, est-ce que dans les jeux From Software ça change quelque chose? Alors, certes, ouais. Morgan, toi, tu t'en es pas forcément rendu compte avec Demon's Souls parce que ils ont fait un jeu un peu shadé, tu vois, avec un moteur qui claque, etc. Donc, les modèles de personnages sont jolis, mais dans les jeux From Software, franchement, tu vois la gueule, rien que la gueule des persos pour faire un personnage qui ressemble à quelque chose, tu vois, tu y mets vite un casque. Moi je te le dis. Hein.
Bah, c'est-à-dire que dans Demon's Souls, c'était pas développé par From Software, donc l'éditeur de personnages était plutôt stylé. J'avais été surpris par le nombre d'options, mais effectivement là on revient du coup à un éditeur de personnages made in From Software. Donc on sait pas du tout s'ils vont faire en sorte que ça soit un petit peu mieux que d'habitude, mais je m'attends pas non plus à ce que ça soit de la même qualité que celui qu'il y a dans Demon's Souls Remake.
Bon, par contre, ça dénote, je pense, l'envie du studio de revenir de quelque chose un peu plus RPG, on va dire, dans l'esprit. Donc, ceux qui n'aimaient pas Sekiro parce que c'était un jeu où tu ne débloquais que des compétences en battant les boss, etc., peut-être que ça leur conviendra mieux. Voilà. Alors, tu auras aussi tu pourras jouer Infiltration, apparemment.
Ah.
D'ailleurs, on voit dans une des séquences du jeu, normalement je t'ai mis le timecode Modren, mais on verra ça tout à l'heure, on voit dans une des séquences du jeu qu'il y a un personnage visiblement qui peut faire des bons pas possibles, etc. Donc, très clairement, je pense que, certes, ce n'est pas Sekiro 2, mais ils ont dû quand même aller chercher deux, trois choses de ce côté-là. Alors, petite nouveauté ou pas vraiment, parce qu'on pouvait déjà jouer avec un ami, on pouvait déjà invoquer des joueurs dans les Souls, mais on pourra jouer apparemment jusqu'à 4 joueurs. Alors la question que je pose, c'est est-ce que ce sera un vrai mode coop, ou est-ce que comme dans les Souls, ce sera surtout pour t'aider à battre les boss?
Voilà. Ouais. Mais ça c'est pas très clair pour le coup.
Bah pour le moment c'est pas, alors je pense que, a priori, ils ont plutôt penser la feature pour du coop, parce qu'on voit clairement quand même dans la vidéo que c'est pas contre un boss qui se bat, hein. À un moment donné, il y a un ennemi, c'est un ennemi random, ça a pas l'air d'être un combat de boss, en fait. Donc, peut-être que, on pourra invoquer des gens, pour nous aider. Sachant que je me posais la question, est-ce que, en fait, c'est pas une classe du jeu? Genre, un espèce d'invocateur qui peut invoquer des joueurs, en fait. Ce serait drôle.
C'est possible, ouais. C'est possible.
Alors, comme on l'a dit, il y aura un cheval. Voilà, un petit cheval.
Un cheval qui fait très bouquetin, on va pas se mentir.
Voilà, c'est ça, c'est un bouquetin, ouais. Et donc, Morgan, je sais pas si tu peux mettre la séquence, mais j'ai remarqué deux, trois petites choses dans le trailer, notamment le fait que, visiblement, il est très agile, il peut faire des doubles sauts. Alors, on s'en rend pas forcément compte quand on voit tout le trailer défiler à toute vitesse, mais en tout cas, il a l'air encore plus manœuvrable que les canassons de Skyrim. Hein. Et en plus, ce petit bouquetin, dans d'autres séquences, dans une autre séquence du trailer, on voit qu'il peut faire des bonds immenses, en plus. Dans le sens où, visiblement, il peut escalader une montagne, quoi.
Oui, j'ai vu ça.
Donc, du coup, je suis curieux de voir à quel point ça va être balisé, si tu veux. Est-ce que c'est juste un pouvoir que tu peux utiliser qu'à des endroits où le jeu a décidé que tu pouvais les utiliser? Ou est-ce que c'est un truc qui tu peux utiliser à n'importe quel moment? Dans ce cas-là, j'ai très peur parce que je me dis, le jeu, il va te casser.
Ouais. Moi, j'ai quand même le sentiment que pour l'histoire du saut de montagne, là, ça soit extrêmement balisé. Alors, c'est typiquement le genre d'endroit où, tu sais, t'as l'impression que ils ont enlevé, tu sais, le cercle lumineux qui est censé te dire, c'est là que tu peux le faire, ton pouvoir. J'ai l'impression qu'il manque juste ce truc-là. Parce que tellement l'animation est faite pour, je sais pas, je le sens bien comme ça. Par contre, effectivement, sur cette histoire de, on peut utiliser le cheval pendant un combat, puisqu'on le voit dans le trailer. Je suis curieux de voir qu'est-ce que ça va signifier en termes de tactique aussi par rapport au boss, parce que ça va certainement, probablement ajouter des choses sur comment tu combats ce genre de personnage-là, parce que souvent c'est des personnages qui sont assez grands, peut-être qu'il y en a certains que tu ne peux pas battre sans cheval, par exemple. Qui serait éventuellement plus rapide, des choses comme ça. Donc ça peut aussi vouloir dire des choses d'un point de vue tactique sur le système de combat.
Et est-ce que, par exemple, ce n'est pas une classe du jeu ? Ça aussi, je me posais la question, du coup. Parce que visiblement, vu que tu peux jouer des classes qui font de l'infiltration, d'autres... Parce que là, clairement, tu vois qu'il y a des chevaliers à l'épée aussi dans le trailer. Donc, visiblement, il y a vraiment une variété gameplay. Est-ce que tu aurais pas une des classes du jeu qui se spécialise dans le combat monté, en fait, tout simplement.
J'avoue. C'est tout à fait intéressant, en tout cas. Pourquoi pas, ouais.
Déjà, rien que ça, je trouve que c'est une nouveauté importante, hein, parce que mine de rien, ça montre que le jeu sera plus fluide dans ces combats qu'un Souls. Hein. Si tu peux monter sur un canasson pour combattre, ça change complètement le gameplay du jeu. Hein. Donc voilà.
Ouais, c'est clair. Ça change la donne, ouais, c'est sûr. Alors c'est moins virevoltant que peut l'être un Sekiro, mais si t'ajoutes effectivement le cheval dans la donne, après faut voir parce que il y a l'air d'y avoir aussi, tu sais, des environnements beaucoup plus resserré type château des intérieurs, quoi, tout simplement. Ça, peut-être que tu n'as pas le droit d'utiliser ton cheval dans ce genre de situation. Ouais, je te le dis, il y avait clairement le cercle, hein, sur le saut de bouquetin là, hein. Donc à mon avis c'est très balisé dans l'open world et ça me surprendrait pas, parce que sinon effectivement ça va poser problème, hein, sur le jeu. Mais bref, cette histoire de cheval effectivement est très intéressante. Faut voir aussi si du coup il crée des murs invisibles pour éviter que tu tombes dans le vide. Parce qu'il y a aussi ça, hein, dans les Souls, c'est impitoyable, hein, sur les chutes. Donc si tu si t'es sur ton cheval et que tu décides de combattre à cheval, mais que il y a une chute potentielle à côté, et tu peux très bien aussi courir vers ta mort, hein, c'est à d'autres chevals. Donc à voir comment ils gèrent ça.
On aura aussi des grosses bébêtes. Notamment dans une des séquences du jeu, c'est du pur Shadow of the Colossus où t'as un truc immense, ouais, qui a une espèce de, enfin je sais pas, il y a une espèce de temple sur son dos ou un truc comme ça, enfin ouais. Bref, qu'est-ce que tu veux que je te dise, ça m'envoie du rêve, surtout que d'un point de vue moteur, mine de rien, je vois beaucoup de gens dire oui, bon, franchement c'est pas terrible, ils ont pas fait beaucoup d'efforts. Franchement, s'ils affichent ce truc là et que le jeu il reste fluide, c'est quand même pas mal, hein. Voilà, quand même. Hein, c'est pas God of War, certes, hein, mais quand même. Surtout si tu veux monter dessus, quoi. Voilà.
Ouais. Non, mais ça a l'air globalement d'être le jeu From Software le plus ambitieux d'un point de vue tout, en fait. Alors, on n'a pas vu encore l'open world qu'ils nous promettent, mais en termes d'ennemis, en termes de
possibilités de gameplay,
en termes de possibilités, en termes de... Enfin, c'est tu sens que ils se reposent pas non plus trop sur leurs acquis, quoi.
Et Marwan, si tu peux montrer aux gens du chat la dernière séquence là que j'ai mis, où on peut jouer un personnage plus agile. On voit il y a des classes dans ce jeu où le gameplay ressemble quand même vachement à Sekiro, quoi. Enfin, en tout cas. C'est pas, tu sais, les Souls à l'ancienne où tu joues un espèce de tank qui fait des sauts de 50 cm à peu près.
Ouais.
Là, clairement, tu vois dans cette séquence-là que t'as un personnage qui fait un bond absolument immense, qui arrive sur la cible pour la charcuter direct. Enfin, j'ai quand même l'impression que il y aura la possibilité pour ceux qui n'aiment pas jouer les Souls à l'ancienne d'avoir quelque chose d'un peu dynamique, quoi.
Ouais. Voilà. Ça, c'est un truc que j'ai noté, effectivement, parce que moi, pour le coup, j'ai la seule expérience de Demon's Souls. Et Demon's Souls, le truc qui m'a le plus gêné, c'est d'essayer de comprendre comment fonctionnait le mouvement et les esquives. Et c'est quelque chose que j'avais comparé, notamment, à du gameplay de Sekiro, mais aussi de Bloodborne. Et je me disais, mais ça a l'air tellement plus agréable de jouer à un Sekiro, à un Bloodborne, d'un point de vue... liberté de mouvement, etc. Alors du coup, de fait, les ennemis sont beaucoup plus rapides, etc. Donc voilà, c'est aussi quelque chose qu'il faut gérer. Mais j'ai l'impression que ici, on est un peu dans un...
Un melting pot.
un melting pot, c'est un mélange des deux, où tu peux avoir d'un côté l'inertie et le côté presque pato des jeux Souls, mais aussi le côté très dynamique et plus Bloodborne, plus Sekiro, quoi. Et ça, je trouve que c'est ambitieux de leur part, parce que de fait, ça implique plein de choses par rapport au design de leur mob. Et donc du coup, je pense que c'est une très bonne idée de leur part. Maintenant, est-ce que ça va pas favoriser certaines classes? Bon, tu me diras, c'est déjà le cas sur Demon's Souls, mais
bah, c'est des gars, ouais, dans Dark Souls aussi. Enfin, je veux dire, tu joues mage, bon, voilà. Ouais. c'est pas du tout le même jeu, quoi.
Ouais, c'est clair. Est-ce que du coup, qu'est-ce que t'en penses de toi de cette présentation?
Juste une remarque. Quand j'ai vu ce trailer, la première chose que je me suis dit dans la tête, c'est Zelda. Ouais. La séquence où je me dis, ça y est, on arrive dans la plaine d'Hyrule, tu vois, enfin, c'est... vraiment, j'ai l'impression que... Alors certes, Dark Souls, ils viennent pas de nulle part. Hein. De base, ils ont pompé Zelda à mort, hein, on va pas se le cacher non plus.
Ouais.
Mais c'est vraiment, j'ai l'impression, le plus Zelda-esque des Souls, quoi. Cette séquence où tu te balades avec un château en loin, etc. Enfin, il y a une atmosphère qui se dégage qui m'a tout de suite rappelé Zelda, quoi. Donc, très très curieux de voir ça. Moi, la seule chose qui me fait peur, et c'est ce qu'on ne verra pas dans ce trailer, malheureusement, et j'espère qu'ils en montreront plus là-dessus, c'est que ce soit un jeu avec d'immenses plaines vides où t'as rien à faire. C'est et où, en gros, tu te diras à la fin... Ouais, ok, ils ont mis des plaines, mais en fait, le jeu, il aurait été interconnecté comme avant avec des petites cartes, on s'en serait pas mieux porté, quoi. Donc, j'espère vraiment que ils ont trouvé des choses pour justifier cet open world, quoi. Que ce soit pas juste pour avoir un terme marketing sur la boîte du jeu, en mode, oui, on a fait un monde ouvert. Oui, bon, d'accord, ok, t'as fait un monde ouvert, mais qu'est-ce que tu apportes d'intéressant, hein? Quoi ça sert de l'avoir fait, ce monde ouvert?
Moi, il y a un des trucs qui m'a le plus marqué sur Demon's Souls, sur ma découverte de Demon's Souls, c'est à quel point le design des niveaux est hyper pensé sur pour encourager la découverte de certaines zones et l'automatisation finalement dans ton cerveau de ce que tu dois faire sur certaines zones, puisque c'est des zones où tu reviens régulièrement, et le fait que suivant ce que tu fais, tu vas aussi pouvoir débloquer des raccourcis. Comment peuvent-ils rendre un monde ouvert aussi intéressant que ce qu'ils ont réussi à faire sur les designs fermés de leurs anciens jeux? Ça, c'est pour moi la question la plus importante à laquelle ils vont devoir répondre.
Après, le truc, c'est que ça, par contre, ils ont été clairs. Hein. T'auras tes châteaux comme avant,
oui, bien sûr.
Ou t'auras le design. En fait, ça, j'ai envie de dire, c'est pas la partie la plus difficile, dans le sens où ils peuvent très bien faire dans ce jeu-là des environnements qui sont un peu fermés à certains endroits de la carte. Et où, du coup, tu vas retrouver le design d'avant. Le problème, c'est ce que tu vas mettre entre tous ces endroits, quoi.
Exactement.
Voilà.
C'est ça. Ok. Et alors, dernière nouvelle, quand même, hein. Et quelle nouvelle, puisque, surprise, on a appris la date de sortie du jeu, et elle est beaucoup plus proche que ce à quoi je m'attendais. Ce sera le 21 janvier 2022. Écoute... ça veut dire qu'ils vont devoir nous en présenter plus très prochainement, a priori,
Là, va falloir se sortir les doigts, là, parce que pour le moment, j'ai quand même, d'une manière générale, si tu veux, j'ai quand même l'impression qu'il y a eu beaucoup de réactions négatives à ce trailer. Et je peux comprendre pourquoi, parce que les gens ont encore dit, ouais, encore un Souls. Voilà. Et je pense qu'il va falloir pour eux qu'ils montrent ce que ce jeu apporte de nouveau sur la table.
C'est ça.
Alors moi ça me dérangera pas d'avoir encore un nouveau Souls, hein, pas de souci. Oui. Mais quand même, ce serait un peu dommage d'être parti sur l'open world pour faire à peu près la même chose qu'avant, quoi.
Ouais, c'est sûr. C'est sûr.
Bon, après si vous avez bien écouté ce qu'on a dit depuis le début, ce sera pas tout à fait la même chose qu'avant malgré tout.
c'est sûr.
Déjà rien que les éléments que tu vois là, Tu aurais dit ça à un joueur de Dark Souls, quoi? Un cheval dans Dark Souls? Vous foutez de ma gueule? Non, c'est pas Dark Souls.
Ouais. Non, mais de toute façon, il y a toute une frange de la population des joueurs de Souls qui, de toute façon, demande exactement cette formule-là. Hein, donc, mais la question, c'est comment ils vont réussir à faire bouger les lignes. Et ça, du coup, on aura la réponse définitive le 21 janvier 2022, sauf évidemment s'ils décalent le jeu. Mais voilà du coup tout ce qu'on pouvait dire sur Elden Ring pour l'instant à partir de cette présentation officielle au Summer Game
Je
Fest.
Note on va le ouais. troll dans le chat qui sous-entend que ce cher George R.R. Martin ne peut pas terminer un scénario, c'est très petit. Voilà.
Ah non mais attends, encore une fois hein, l'histoire ne dit pas que c'est George R. R. Martin qui a écrit le scénario du jeu.
Je pense qu'il a contribué à l'univers. De ce que j'ai compris, c'est surtout l'univers qu'il a créé.
C'est
en ça. Fait,
hein. Ouais, c'est ce que j'avais compris aussi. Hein. Mais
il paraît que dans le trailer, à un moment donné, il y a le blason des Lannister qui est caché quelque part.
Ah oui.
Okay. J'imagine que c'est un clin d'œil.
Ah, pendant que je regarde. Petit caméo. Ok, bon, on va terminer ce podcast avec une news assez étonnante, mais qui l'air de rien. Bon, vous connaîtrez tout ce qu'il y a à dire dessus quand j'aurai dit le gros titre. C'est que Electronic Arts s'est fait voler le code source de FIFA 21 et du moteur Frostbite. C'est pas la première fois que ça arrive, ce genre de choses. CD Projekt avait eu ce genre de fuite il y a pas si longtemps que ça. Bon, qu'est-ce que ça veut dire spécifiquement pour EA, tiens.
Alors. Dans le cas de CD Projekt, ce qui était surtout chiant, c'est qu'il y avait eu aussi des données des employés, visiblement, qui ont été volées.
Ok.
Je veux dire, après, Cyberpunk, bon, ça fait chier CD Projekt directement, c'est sûr, hein, parce que du coup, il y a des gens qui ont le code source de leur jeu. Ouais. Mais là où ça pose un encore plus gros problème pour moi, dans le cas d'Electronic Arts, c'est que ce moteur-là, il est fait pour des jeux multijoueurs. Et du coup, dans un monde où tu as des gens qui créent régulièrement des hacks pour pouvoir tricher dans les jeux multi, etc.
Ouais.
Ce truc-là, c'est pas du tout une bonne nouvelle. Parce que ça veut dire que tu as des gens pas tout à fait bien intentionnés qui vont avoir accès au code source 1 de FIFA, 2 du moteur, pour faire des saloperies, quoi. Et ça, à mon avis, je pense que, du point de vue du joueur, ça va être infiniment plus problématique que ce qu'il y a eu pour CD Projekt. Parce que CD Projekt, c'est des jeux solo. À la limite, le joueur, lui, il s'en fout, quoi. Mais là, par contre, quand on parle d'un jeu multijoueur, quand ce genre d'outils tombe en main d'organisation pas très bien intentionnée, ça peut faire des dégâts.
Ouais, tu m'étonnes. Ouais, ça c'est effectivement c'est problématique, surtout sur un jeu tel que FIFA où il y a des matchs entre guillemets à enjeu, tout particulièrement pour les gens qui payent des loot box. Ne faites pas ça, bien évidemment.
Alors, et Kiltia qui dit un truc intéressant dans le chat, c'est que peut-être qu'avec ce truc-là, on pourra savoir le taux drop des jeux FIFA, notamment.
Bah oui, potentiellement si le code source, effectivement, ça doit être dans le code source, ce genre de choses-là. Donc oui. Ouais, c'est effectivement le seul truc positif qu'on pourrait pour savoir autour de ça. Ça serait intéressant effectivement de voir ce qu'il y a derrière cette nébuleuse qui est la galaxie des lootbox chez Electronic Arts et particulièrement sur FIFA. Tout à fait.
Bon alors, reste à savoir si le code source se retrouvera dans la nature, parce que je rappelle que les hackers qui font ça... Ils font pas ça par charité, si tu veux, quoi. C'est pour gagner du fric, hein. Donc, si Electronic Arts, parce que j'imagine qu'ils ont fait une rançon, du coup, si Electronic Arts ne veut pas payer, j'imagine, du coup, qu'ils vont mettre le code source du jeu aux enchères. Ça avait déjà été fait pour CD Projekt. Bon, visiblement, ils ont changé d'avis parce que le code source de Cyberpunk et de leur moteur a été mis en public sur BitTorrent. Non. Mais là pour le moment c'est pas sûr à 100% que on y aura accès plus tard, voilà.
D'accord. Ok. Bon, bah en tout cas c'est vrai que, enfin moi je suis jamais très très fan de ce genre d'initiative, très honnêtement, mais bon, s'il y a des informations qui peuvent en sortir, écoute, pourquoi pas.
Là, bon, c'est con pour la boîte, mais à la limite, on s'en fout. Hein. C'est pas, c'est pas notre problème. Là où c'est ça devient notre problème, par contre, c'est que c'est quand ça touche directement le joueur. Quoi.
Voilà. Ok. Eh bien, écoute, voilà qui va conclure notre podcast cette semaine.
Oui, bah écoute, ma foi, j'avais peur que ça soit trop long, mais finalement, on a fait un temps raisonnable cette semaine. Ouais. Donc, voilà.
À moins que tu veuilles improviser un test de RE8 tout de suite, mais...
Ouf, oula,
sinon,
alors
sinon, il n'y aura pas de rab.
Improviser comme ça, tu...
Non,
Il faut que ça soit préparé, hein, parce que là, ça va pas être possible. À la limite, je préparerai peut-être pour la semaine prochaine, parce que pour le coup, je pense qu'à part ce que va dire Microsoft, en vrai... il y aura peut-être pas forcément autant d'actu qu'on pense, quoi. Donc,
J'attends des choses de la part de Microsoft et de Nintendo. Après, on verra. On verra.
Donc, l'émission est assez courte aujourd'hui. C'est aussi une des raisons pour lesquelles on va bientôt arrêter l'émission. Parce que, une fois que l'été arrive, il y a de moins en moins de choses à dire.
Oui.
Voilà.
Donc, oui, on le rappelle, l'épisode prochain, donc l'épisode 381, sera le season final de cette saison avant la rentrée. Du coup, il y aura la pause estivale. Et puis voilà. Mais c'est bien aussi de pouvoir recharger les batteries, que ça soit des auditeurs mais aussi des chroniqueurs, hein, qui ont participé à l'intégralité des podcasts de cette saison. Il faut le dire.
On va pas se mentir, mon cher Mandren, faire un podcast avec la chaleur comme ça, non, en fait.
Ouais, c'est pas très agréable.
Ça va pas être possible, quoi. C'est...
Ouais. Moi, c'est pour ça que je préfère l'hiver, perso.
J'ai ma clim qui est allumée et pourtant je suis en sueur là. Donc on crève de chaud là en ce moment, donc voilà.
Et oui,
on va s'arrêter, on va bien se reposer
aux conditions de travail.
C'est ça.
On en a suffisamment parlé pour le jeu vidéo, parlons-en pour les podcasteurs. Allez, trêve de bilvesée, on va se donner rendez-vous la semaine prochaine. Évidemment, n'hésitez pas à venir nous parler dans les commentaires sur gameinfo.fr, et puis évidemment à ceux qui nous écoutent sur leur plateforme de podcast habituelle, à passer sur twitch.tv/radio_gameinfo pour venir évidemment discuter pendant le podcast de fin de saison en direct sur twitch.tv. En général, c'est les dimanches à 18h, et on annonce tout ça sur notre serveur Discord. Les liens en général sont donnés sur l'article de publication du podcast. On vous fait des bisous, passez une bonne semaine, et puis portez-vous bien, et surtout jouez bien.
Et puis surtout, n'oubliez pas d'aller voir la chaîne Twitch de ce cher Mandren, il stream régulièrement, donc twitch.tv/Mandren. On a hâte de voir ça. Allez, des bisous.
Salut tout le monde. Ciao.